CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG.
Et le MAG du Tarn-et-Garonne, aujourd'hui, laisse place à Politiquement Votre avec Kader Youb. Bonjour Kader.
Bonjour Rémi, bonjour à tous.
Votre invité aujourd'hui,
Jean-Michel Baillet, conseiller départemental, maire de Valence d'Agen et président de la communauté de communes des Deux-Rives. Bonjour Jean-Michel Baillet.
Bonjour à vous et bonjour à toutes et à tous.
Merci d'avoir accepté l'invitation de CFM Radio. Nous allons avec vous déflorer ce que vous avez nommé le plan de relance départemental au cours de cette émission. Mais avant cela, je voulais avoir votre avis sur le virus qui n'en finit pas de monter en puissance, si je puis dire, avec la résurgence de cette pandémie et une cinquième vague importante. Près de 50 000 nouveaux cas encore hier. Les autorités sanitaires ont recensé d'ailleurs 13 cas suspects de contamination par le nouveau variant Omicron. Et la question de la vaccination obligatoire qui est désormais posée et sur la table. On sait que Ursula von der Leyen a clairement dit que l'obligation vaccinale pouvait être une option. Quel est votre avis sur le sujet, Jean-Michel Baillet ?
C'est assez désespérant. Nous n'en sortons jamais. Dès que nous avons l'impression que ça va mieux, rapidement, ça empire. Mon avis, c'est qu'il faut être extrêmement vigilant quant aux gestes barrières et au respect des consignes sanitaires, mais qu'en même temps, il faut bien vivre et permettre à l'économie de fonctionner. Je suis pour la vaccination obligatoire.
Vous êtes pour la vaccination obligatoire ?
Je suis pour la vaccination obligatoire. Vous m'avez posé la question parce que je ne comprends pas qu'une infime minorité, prétextant je ne sais quelle peur, mette en danger la majorité des Français. Donc il est des moments où il faut prendre des décisions fermes et efficaces.
Dans quelques mois, Jean-Michel Baillet, il y aura des scrutins très importants, notamment la présidentielle qui se profile à l'horizon. Est-ce que le rassemblement de la gauche doit se faire autour d'Anne Hidalgo, selon vous ?
Ce serait merveilleux, mais c'est mal barré. Moi, je suis consterné de voir la gauche dans cet état. J'ai participé à tous les grands combats de la gauche, aux campagnes et aux victoires de François Mitterrand, et quand je vois comment nous sommes balkanisés, quand je vois comment nous sommes divisés, quand je vois que finalement nous n'existons plus, et lorsque les formations politiques n'existent plus, contrairement à ce qui se raconte aussi de là, finalement les partis s'est dépassé, non, parce qu'on n'a rien trouvé de mieux pour organiser la démocratie que les partis politiques. Or aujourd'hui, les partis sont tellement affaiblis qu'ils ne sont plus capables de présenter à nos concitoyens des projets, encore moins de mettre en avant nos valeurs. Et finalement, c'est davantage la droite et l'extrême droite qui prennent l'ensemble de l'espace politique avec toutes les conséquences que nous voyons. Il est clair que la France se droitise. Mais elle se droitise parce que les seuls qui essaient de présenter des projets et parler d'idéologie, une idéologie qui n'est pas la nôtre, c'est eux. Donc il faudrait se ressaisir, je l'espère, je ne suis pas certain que ça arrivera.
– Est-ce que vous, à titre personnel, vous soutenez Anne Hidalgo ?–
Moi, je voterai à gauche.
– Oui, c'est-à-dire, alors à gauche, il y a Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo,
attendons de voir Arnaud Montebourg. – Moi, je connais bien Anne Hidalgo et j'ai beaucoup d'estime pour elle. Et on a travaillé ensemble quand j'étais au gouvernement et elle, maire de Paris. Mais attendons de voir ce qui va se passer, car je me dis quand même que devant une telle situation, il y aura peut-être à un moment une prise de conscience et qu'on redistribuera les cartes.
Ouais, vous pensez, par exemple, il se murmure que François Hollande, par exemple, serait peut-être le plan B du Parti Socialiste. Est-ce que c'est une probabilité, une possibilité
Possibilité, bien sûr. Probabilité, je ne le crois pas. Mais votre commentaire, finalement, est complémentaire à ma réponse précédente. Attendons de voir d'ici fin janvier. Moi, je n'arrive pas à penser que la gauche peut rester dans cet état. Elle va être inexistante. Si nous allons aux élections présidentielles telles que avec l'offre d'aujourd'hui, nous allons être laminés et ridiculisés. Or, on voit bien que la gauche existe quand même, d'abord par ses valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité, de solidarité. Elles sont totalement d'actualité. Mais on le voit aussi dans les élections territoriales. Nous avons gagné des villes, nous avons gagné des départements, y compris le Tarn-et-Garonne. Oui. Donc, nos concitoyens, ils n'hésitent pas à voter pour des candidats de gauche, pour peu que ces candidats-là soient capables de créer un lien direct et un lien de confiance avec eux. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas, on le voit dans les sondages.
Est-ce que le Parti radical de gauche prendra toute sa part dans la campagne présidentielle ?
Bien naturellement. Alors moi, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça. J'ai été président 20 ans. Il faut savoir passer la main. Oui. Mais il va de soi que le Parti radical de gauche, comme son nom l'indique, est un parti de gauche et qui sera partie prenante de la campagne de la gauche derrière le candidat d'une gauche que j'espère rassembler.
Aujourd'hui, on connaîtra les deux finalistes de la primaire. Si je puis dire, même si elle ne s'appelle pas comme ça, la primaire des Républicains. Est-ce que vous suivez avec attention ce qui se passe aussi dans le camp des Républicains ?
Moi, j'ai du goût pour la politique. Ça n'est pas un mystère. Et j'ai regardé quelques-uns de ces débats. Ouais. Alors, à vrai dire, jamais jusqu'au bout. Parce qu'ils sont très fastidieux. Et je me garderai de critiquer les candidats à cette primaire. J'y ai moi-même participé. Peut-être que, en d'autres temps, il y a une autre primaire, et peut-être que les téléspectateurs pensaient la même chose. Ce qui m'a marqué, c'est qu'il n'y a pratiquement pas de différence entre eux. Éric Ciotti, un peu, beaucoup plus à droite, plus près de Marine Le Pen ou de Zemmour que des Républicains. Les autres, c'est la même chose. Donc on verra bien qui les militants de ce parti politique choisiront.
On le
saura tout à l'heure, d'ailleurs.
Tout à l'heure, puisqu'à 14h, je crois que le vote sera terminé. Passons sur le local, Jean-Michel Baillet. Vous avez interpellé avec plusieurs autres personnalités du département. Et je vais citer Axel de Labriole, le maire de Montauban, Thierry Deville, Michel Veil, bien sûr, le président du conseil départemental, Valérie Rabault, Sylvia Pinel et Pierre-Antoine Lévy. Vous avez, et François Bonhomme, bien sûr, vous avez interpellé, vous avez écrit au Premier ministre concernant le futur hôpital de Montauban. Pourquoi ? Quelle était, finalement, votre stratégie ?
La santé nous concerne tous. Oui. Nous sommes au cœur de l'actualité. L'hôpital de Montauban est dans un état catastrophique. Mais jusque-là, n'avait aucun moyen d'investir ni de prendre son destin en main. Le plan de relance national a débloqué ses moyens. À partir de là, il est clair qu'il faut que Montauban ait un hôpital moderne. La décision est prise. Il faut que l'EHPAD soit aussi modernisé, car on parle beaucoup de l'hôpital, on ne parle jamais de l'EHPAD. L'EHPAD, c'est quand même le département. Et c'est l'EHPAD qui est dans la plus mauvaise situation de tout le Tarn-et-Garonne. Nous avançons sur l'EHPAD, ça c'est la compétence départementale, nous avançons sur l'hôpital. Aujourd'hui, il y a un bon directeur, M. Massip, qui est en train de travailler avec l'ARS et la main dans la main avec nous pour savoir quel projet et sur quel site.
Oui, alors.
Il avait été raconté des balivernes avant, en disant que le Premier ministre avait donné son accord sur un Bressol. Ça n'est pas le cas.
Ce ne sera pas le cas ?
Non, ça peut être le cas. Ça n'était pas le cas puisque ce n'était pas choisi. Est-ce qu'on reconstruit sur place ? Vraisemblablement pas. Est-ce que cet hôpital est construit au sud ? Ça peut être Bressol, ça peut être la Cour Saint-Pierre. Est-ce que cet hôpital est construit au nord. La décision sera prise rapidement.
– Oui, on le saura avant la fin du mois.
– Bien sûr, et l'enjeu est tel pour l'État Tarn-et-Garonnais que nous nous sommes réunis à la mairie de Montauban et j'ai effectivement proposé, et tout le monde l'a accepté, que nous saisissions le Premier ministre, tous ensemble, quels que soient nos partis politiques et nos convictions, de ce sujet-là. Nous avons donc envoyé un courrier. Nous attendons qu'il réponde. Il a le Covid lui-même, donc.
Oui, ça y est, là.
Oui, bon. Mais Et mais... il se trouve que je suis allé voir le match France-All Black et que j'ai rencontré Jean Castex et nous en avons discuté. Et il est très soucieux, effectivement, de connaître la position des élus là-dessus. Et nous allons créer les conditions pour avoir une position commune sur sa localisation avec
oui.
un principe intangible. Nous ne voulons pas que la construction de cet hôpital porte tort à l'hôpital de Moissac, qui n'a pas besoin de ça, tant s'en faut.
Ouais. Juste avant de marquer une courte pause, votre avis à vous, votre souhait pour l'emplacement du futur hôpital, ce serait lequel ?
Je ne vais pas commencer à énoncer un souhait personnel, puisque je viens de vous dire que nous allions oui, essayer de trouver une solution commune. Nous en parlons, les uns et les autres, les signataires de la lettre. Ce qui importe, c'est que l'hôpital soit là.
Ouais.
Vous savez, on parle de pour dans 15 ans. Et puis, le temps de mener toutes les procédures administratives, financières, construction et autres. Mais on parle beaucoup du positionnement. Mais il y a un deuxième sujet dont on parle moins.
C'est la finance.
Voilà.
Oui.
Voilà. Le financement. Et sur le financement, nous sommes encore trop dans le brouillard.
Jean-Michel Baliné, on marque une courte pause. On se retrouve tout de suite après pour évoquer donc, le plan de relance départemental.
À Moissac, Castelsarrasin et Saint-Nicolas-de-la-Grave, vous écoutez CFM Montauban.
Vous avez entre 11 et 30 ans. Besoin d'un coup de pouce pour réaliser une idée, un projet? La bourse IDJ, un dispositif qui encourage les projets dans les domaines de la citoyenneté, l'environnement, la culture, le sport, la science, la solidarité, l'international. Présentez votre projet devant le jury et obtenez jusqu'à 1000 euros. Téléchargez et complétez le dossier sur le site sij-montauban.fr. Venez en parler au service information jeunesse de Montauban ou au PIJ de votre commune. La bourse IDJ est un dispositif porté par la CAF, la DSDEN, la MSA et le GMCA.
Vendredi 3 décembre, rendez-vous à Sapiac pour le match opposant Montauban au FC Grenoble Rugby. Coup d'envoi à 19h30 pour ce choc de la Pro D2 face aux Isérois. Ouverture de l'espace Le Pub et du Village Gourmand à 18h. Tarif Sapiac Web pour assister au match au meilleur prix et sur notre billetterie en ligne usmsapiac.fr.
J'aimerais tant varier les endroits où on sort, mais avec ce budget si serré,
fini les tracas. Pour des sorties sympas, l'arme absolue, c'est le guide Pastime.
Pastime ?
Pastime, c'est le guide d'ici. Il offre une large sélection de restaurants, de loisirs, de commerces, avec des réductions allant jusqu'à 50%.
Génial ! Avec tant d'avantages, Pastime est accessible à tout le monde ?
Oui, tu sors sans compter pour découvrir et redécouvrir. Voir conditions sur www.pastime.eu. Avec le guide Pastime, sortez plus, moins cher.
150 commerçants et artisans vous accueillent chaque jour à Caussade. Pour vous rendre la vie plus facile, l'association des commerçants Galu vous propose le chèque Caussadé. Plus qu'un chèque, c'est une monnaie locale. À offrir ou vous faire plaisir pour toutes les occasions dans de nombreux commerces. Le chèque Caussadé, c'est le cadeau idéal pour Noël. Les fêtes vont briller avec les commerçants Caussadé. Pour en savoir plus, rendez-vous sur galu-commerce-caussade.fr. Message en partenariat avec le Crédit Agricole de Caussade.
À la française, Albias ou Montbartier, vous écoutez CFM Montauban.
Et vous écoutez Politiquement Votre, Kader Youb reçoit aujourd'hui Jean-Michel Baillé.
Oui, donc avec Jean-Michel Baillé, le 10 novembre dernier, Jean-Michel Baillé, vous avez présenté avec Michel Veil, le président du conseil départemental, un plan de relance départemental articulé autour de deux volets, un volet département et un volet collectivité. C'était votre intention c'était d'impliquer davantage les collectivités, les communes et les intercommunalités à ce plan de relance, c'est ça ?
D'abord un constat. Nous sortons de 6 ans d'immobilisme absolu, pendant lesquels rien ne s'est fait.
Mais ça, c'est vous qui le dites. Hein.
Et je l'affirme, et je le démontre. Et d'ailleurs, si vous dites-moi, une seule réalisation qui soit faite pendant ce mandat, si vous gelez celle qui était déjà budgétée au montant et qui a été péniblement menée, comme le collège de Verdun.
– Oui, bon, il y a eu quand même le plan numérique, le plan des équipements en fibre du département.
– Mais cher monsieur, ce plan, il a été lancé sous ma présidence, c'est porté par Guy-Michel Ampossiello, le syndicat mixte a été créé sous ma présidence, etc. Il y a eu, très insuffisamment, la continuité des actions que nous avions lancées, mais rien de nouveau, un manque d'ambition absolue, et donc le département, parce que quand on n'avance pas, les autres continuent à avancer, a pris du retard. Donc nous avons décidé, Michel Veil, d'élaborer un plan de relance départementale pour tenter, si tenter que ce soit possible, de rattraper le temps perdu. D'abord, vous l'avez dit, avec les collectivités qui ont été freinées dans leur élan, que ce soit les communes, les communautés de communes, parce que la modification, alors c'est très technique, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la modification qui a été décidée par la précédente majorité quant aux enveloppes que nous donnions pour ce que j'avais appelé les contrats d'équipement, fait que la plupart des communes n'ont pas pu dépenser cet argent. Y compris d'ailleurs moi-même à Valence d'Agen. Et donc, il y a eu un frein naturel. Or, moi, ma vision, c'est ça. Vous avez besoin d'argent, nous sommes là et on vous finance de manière significative pour vous permettre de mener à bien vos investissements. Vous n'avez pas besoin d'argent.
Sans plafond. Il y a des plafonds, mais
très différents. Mais vous n'avez pas besoin d'argent, on ne vous donne pas de l'argent qui dort et qui ne sert à rien, ce qui a été le cas. D'ailleurs, la plupart de cet argent a été rendu, puisqu'il n'avait pas été utilisé. Donc ça, c'est concernant les communes, et nous avons rajouté les communautés de communes dans ce plan. Ensuite, nous avons aussi un plan de relance concernant l'éducation.
Oui, ben on va y venir, mais bon. Restons sur... Non, mais sur les communes, c'est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les communes du département peuvent aller toquer à la porte du département pour dire, voilà, nous avons un projet d'investissement sur tel domaine. Vous ouvrez les vannes, c'est ça? C'est-à-dire pour...
Ouvrir les vannes, c'est un mignon mot, ça paraît irresponsable. Nous avons relevé les seuils de subvention qui étaient à 100 000, nous avons porté à 200 000. Nous avons créé les conditions pour que les communes puissent de nouveau mener à bien leur projet, redémarrer avec les conséquences que ça a, non seulement pour les équipements des communes, mais également les conséquences favorables et heureuses pour l'économie locale, en particulier le BTP.
– Alors là, ce sera elles feront l'objet de conventions, c'est ça, de contrats ?–
Bien sûr, nous reviendrons à des contrats comme il y en avait en son temps.
– Pluriannuel.
Pluriannuel, sur 3 ans, bien sûr.
– Et est-ce que d'ores et déjà, des collectivités, des communes ou des intercos vous ont déjà sollicité pour ce plan de relance ?–
Oui. Michel Veil en parlait avant-hier. C'est un défilé de maires dans son bureau qui viennent solliciter tout cela.
Oui.
Parce qu'ils savent qu'avec ce système, contrairement au précédent, ils peuvent reprendre la marche en avant et équiper leur commune.
Est-ce que sur ces plans, Jean-Michel Baillet, il y aura des clauses pour faire travailler, par exemple, des entreprises? Est-ce que, d'ailleurs, vous pouvez le faire? Est-ce que vous en avez le droit?
Chaque fois que nous le pouvons, nous le faisons.
Oui.
Mais vous savez que nous sommes tenus par des règlements très stricts. Mais bien entendu que nous essayons chaque fois que c'est possible favoriser les entreprises locales. Et si vous regardez à qui sont attribués les marchés, c'est largement le cas.
Oui.
Mais tout ça, le respect de la loi quand même.
Est-ce que par exemple, avec le Grand Montauban et la ville de Montauban, les relations se sont aplanies? Est-ce que le dialogue est à nouveau possible? Est-ce que les projets vont voir le jour entre le conseil départemental et la ville ou le Grand Montauban?
Que ce soit la ville ou le Grand Montauban, nous avons effectivement beaucoup évolué dans nos relations qui sont aujourd'hui normalisées. Et la démonstration d'ailleurs, si vous avez, puisque vous étiez là le jour où j'ai présenté, écouté le plan de relance, vous avez vu qu'il y a pas mal de projets sur Montauban, dont un projet qui était bloqué depuis longtemps, le contournement du Grand Montauban. Pour ce faire, nous allons chercher des fonds à la région. Et avec Michel Veil, nous avons rencontré Carole Delga qui nous a assuré de son soutien. Et depuis, des réunions de travail ont eu lieu entre nos collaborateurs et ceux de Carole Delga. Nous avons rencontré aussi le préfet de région qui nous a aussi assuré de son soutien. Et très prochainement, il y aura une rencontre entre nos collaborateurs et le SGAR, secrétaire général aux affaires régionales, pour parler de ces financements. Mais c'est bien que finalement les relations à Montauban soient stabilisées et normalisées. Et je peux vous dire que d'abord c'est plus agréable. Et ensuite, Montauban est quand même la capitale départementale, il n'y a pas de raison que ne nous engagions pas, y compris sur Montauban.
Comment vous le voyez, le Tarn-et-Garonne, dans 5 à 10 ans ?
Vous savez que il est prévu que de l'INSEE prévoit que le Tarn-et-Garonne sera le département de France en pourcentage, bien sûr, qui aura la plus forte évolution de population, puisqu'il prévoit en 2050, 2050, c'est même pas 30 ans, hein, oui. 325 000 habitants.
325 000 habitants, est-ce que nous avons les infrastructures pour accueillir ces nouveaux habitants ? Est-ce que nous avons les services qui vont avec ? Est-ce que nous avons toute l'architecture, quelque part ?
Nous revenons à ce que je disais il y a un instant. C'est le département qui doit être le moteur de tout cela. Nous l'avons fait pendant des années, quand même. On a construit 8 collèges, on a construit des CMS, on a offert des services. Nous voulons reprendre la marche à l'avant, bien entendu, que nous allons créer les conditions pour qu'il en soit ainsi. Regardez, dans le plan de relance, j'ai déjà annoncé que nous allions agrandir un certain nombre de collèges, que nous allions faire le gymnase à Verdun-sur-Garonne, etc.
Jean-Michel Blanet, vous avez vous me donnez la main. Hein, vous avez prévu d'agrandir les collèges de Montèche, de la Bastide, du collège Azania à Montauban et celui de la Française. Mais dans votre plan de relance, il n'y a pas de place pour la construction d'un nouveau collège à Montauban, qui faisait partie, quelque part, des programmes de tous les candidats lors des élections départementales. Et nous avons reçu ici, ils s'accordaient pratiquement tous à dire qu'un nouveau collège à Montauban était nécessaire pour désengorger les existants.
– Effectivement, un certain nombre de collèges sont saturés. Montèche, la Bastille-Saint-Pierre, etc. Je n'ai pas dit qu'il n'y aurait pas un 19e collège sur l'aire urbaine de Montauban. J'ai dit que d'abord, il fallait revoir la carte scolaire. Parce que nous venons de parler des collèges saturés, mais il y en a qui ont des places disponibles, à Castel, à Beaumont-de-Lomagne, etc. Donc essayons quand même d'être cohérents dans l'organisation spatiale et dans la répartition de la carte scolaire. Ensuite, une étude a été lancée, et cette étude nous dira s'il y a la nécessité ou pas, et à quel terme, de faire un 19e collège à Montauban. Si tel est le cas, nous le ferons.
– À Montauban, ce sera au sud de Montauban, c'est ça ?–
Arrêtons le principe, et ensuite nous verrons où il doit se situer.
– Avant la fin de la mandature, le projet pourra ?–
Je n'ai pas dit avant la fin de la mandature. Je vous ai dit que nous allons revoir la carte scolaire, que nous allons réfléchir à tout cela, et qu'ensuite nous déciderons.
Vous avez...
En fait, juste sur les collèges,
bien
quand
sûr,
même.
Bien sûr, on a le temps.
Nous ne nous sommes pas contentés de dire on va faire. Nous avons voté des crédits de paiement pour 12 millions.
Oui,
qui n'étaient pas là, parce que là aussi, il y a une différence à la passante majorité.
Pour l'extension des collèges.
Ils se contentaient de voter les autorisations de programme.
Montèche, la Bastide,
oui,
collège Azania, et à la Française.
Ils sont votés.
Ah, c'est ça.
Nous avons présenté le plan de relance et à la même session, nous avons concernant les collèges. Et concernant ce dont nous parlons tout à l'heure, les aides communes, nous avons modifié nos politiques et nous avons inscrit les crédits.
Pour ce qui concerne finalement le plus gros budget du département, le social, est-ce que vous avez des projets ? Est-ce que ça fait partie, d'ailleurs, le social, de votre plan de relance ? Est-ce que vous avez prévu d'intensifier, le réseau social du département ?
Le social est une des compétences majeures du département, puisque c'est le premier poste de dépense, hein, 62% de nos dépenses de fonctionnement au dernier compte administratif. Nous allons œuvrer contre la désertification médicale en créant une bourse départementale pour les étudiants en médecine qui, prennent l'engagement de rester 5 ans chez nous, nous leur paierons 3 ans, c'est-à-dire la fin de leurs études. Nous allons tirer les enseignements du Covid sur nos établissements d'accueil pour personnes âgées. Nous allons regarder la gestion de l'APA. Nous allons parler insertion. Bon, bien naturellement que le social étant notre principale compétence, nous allons œuvrer. Et je fais confiance à José González, qui est le vice-président chargé de tout cela, sur ces sujets qu'il connaît bien.
Le plan de relance, il est sur le bon rail, si je puis dire.
Pardon ?
Il est sur le bon rail, les bons rails, le plan de relance ?
Bien naturellement, puisque je vous répète que dès sa présentation, à la même session, nous avons déjà voté et adopté deux rapports Celui concernant les communes et communautés de communes pour les accompagnements et que j'ai évoqué tout à l'heure, et celui concernant les collèges. Et aux orientations budgétaires qui sont dans quelques jours, nous allons adopter d'autres rapports.
Une question,
en particulier d'infrastructure.
Une question très rapide, mais qui appelle aussi une réponse très rapide. Concernant la LGV, vous êtes un farouche partisan de cette ligne à grande vitesse, Jean-Michel Baillet ?
Peut-être irresponsable pour une position contraire. Saint-Mé-Montauban à 3 heures et quelques de Paris. Nous avons la chance d'avoir une gare. Et autour d'une gare, bien entendu, que nous allons structurer une zone économique. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai proposé de créer une structure dont on n'a pas encore défini ce qu'elle serait, un EPIC, une SEM, pour porter l'ensemble de ces projets, car tout cela est un tout. La gare, la zone économique, la bretelle de l'autoroute à la cour Saint-Pierre, et la liaison, la mobilité entre cette bretelle et la gare. Donc ça, ce sont des projets énormes, mais qui, en termes de conséquences économiques et en termes d'emploi, auront des retombées tout à fait considérables.
Est-ce que vous êtes partisan d'un peu plus de décentralisation aujourd'hui, enfin, ces jours-ci se tient l'Assemblée des départements de France. Est-ce que vous souhaiteriez plus de pouvoir donné au président de conseils départementaux ?
Très rapidement. Ça ne se pose pas en matière de pouvoir, ça se pose en matière d'efficacité. J'ai été ministre des collectivités plusieurs fois. Clairement, nous ne sommes pas au bout de la décentralisation. On décentralise un peu. Nous parlons de solidarité. La solidarité, c'est la compétence des départements. Mais vous avez encore des petits bouts de solidarité qui sont la compétence de l'État. Ça ne fait que compliquer les choses.
C'est-à-dire que vous voudriez avoir la compétence exclusive de la solidarité.
Il faut qu'il y ait des blocs.
Oui.
Ça, c'est la compétence des départements, ça, c'est la compétence des communes, ça, c'est la compétence des régions, ça, c'est la compétence de l'État. Et la compétence de l'État, tout logiquement, elle est surtout sur le régalien.
Jean-Michel Baillet, une question personnelle, si vous me permettez. Est-ce que vous êtes heureux en ce moment ?
C'est une question que je ne me pose plus depuis longtemps. Moi, je prends la vie telle qu'elle vient, avec ses aléas. J'ai été élu maire de Valence en 77, député en 78. Bon, j'ai eu un parcours politique que vous connaissez. J'ai la chance de diriger la dépêche avec mes enfants, ce qui est un vrai bonheur. J'ai souhaité terminer là où j'ai commencé, c'est-à-dire à Valence d'Agey. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de rester à Valence et demander à Michel Veil de présider le département. Non pas contrairement à ce qui a pu être dit à cause des monstruosités qu'on a voulu raconter sur moi et qui sont honteuses et scandaleuses, qui n'honorent pas leurs auteurs. Mais j'ai fait ce choix. Donc ma vie personnelle est heureuse, ma vie professionnelle est heureuse, ma vie publique. Quand je regarde mon parcours, je ne suis pas si mécontent.
Merci beaucoup, Jean-Michel Baillet.
Merci à vous.
Merci, Kader Youb. La semaine prochaine.
La semaine prochaine, ce sera Thierry Fagier, le président du Modem 82, qui sera ici dans les locaux de CFM Radio.
Merci.